Donc, que se passe-t-il lorsque nous prenons une expression familière et que nous l'approchons de la lumière pour l'examiner? En fait, en l'ouvrant, en la décortiquant, la regardant d'un œil critique, on peut voir ce qu'elle obscurcit, ce qu'elle réfracte et ce qu'elle illumine. Et en l'occurrence, c'est ce qu'entreprennent un certain nombre d'artistes occidentaux contemporains qui font donc d'un syntagme commun, langue maternelle, le support de leur création pour générer une expérience de dépaysement à son égard, suivant la loi universelle de Derrida, selon laquelle une langue, ça n'appartient pas. Les artistes, en l'occurrence, vont questionner une expression donc, que nous connaissons tous, qui est assez puissante et qui est pourtant ni évidente ni transparente. Elle condense en effet des imaginaires multiples, linguistiques, idéologiques, genrés, affectifs, avec des relations qui vont du désir et de l'adoration jusqu'à la haine intense et l'envie de rompre les logiques d'appartenance familiale, nationale ou politique. Les écrivains vont travailler la fabrique même de l'expression, donc sa texture, ce que Barthes appelle la masse bruissante et la pellicule sonore de la langue, et ce qui va exiger de nous donc une analyse au plus près des écritures. C'est le moyen justement donc de libérer les potentialités poétiques de cette expression, donc contre le principe d'une langue maternelle idéalisée et essentialisée, le caractère donc supposément naturel de cette langue, dit Lacan, dite maternelle et pas pour rien dite ainsi, les artistes vont proposer un ensemble de scénarios défamiliarisants en examinant justement esthétiquement ces diffractions, ces intensités et ces élasticités. Donc cette expression puissante et résiliente est en l'occurrence, on le sait, un carrefour de métaphores, donc langue première, langue commune, langue de la mère, langue natale, langue de la nation, langue ombilicale, langue apprise dans la nursery, donc avec la nourrice, donc depuis la juxtaposition séminale de la lactation et de l'acquisition du langage, en défense du vernaculaire chez Dante, etc. Et donc, il est relativement urgent de déconstruire cette expression qui peut nous faire tiquer et d'en étudier les diverses intonations, comme le fait, par exemple, J.M. Coetzee, donc c'est un extrait entre un écrivain vieillissant et une jeune femme dans Journal d'une année noire en 2007. Donc, langue maternelle, dit-il, qu'est-ce que ça veut dire, langue maternelle? Ça veut dire la langue que vous avez apprise sur les genoux de votre mère, dis-je. Je sais bien, dit-il, mais c'est votre métaphore qui me fait tiquer. Faut-il que j'ai appris une langue sur les genoux d'une femme? Faut-il que je l'ai bue à la mamelle? Donc, examiner la manière dont les écrivains problématisent les implications de la notion et de ses imaginaires, et en particulier ce qui a trait à la filiation, bien sûr, c'est aussi regarder justement comment ils rendent l'expression commune définitivement étrange, nous empêchant de la tenir pour sûr et évident. Et donc, pour ce faire, je propose de m'appuyer sur l'analyse que Ginsburg propose de la notion de défamiliarisation, donc l'ostranémie de Schlosky, ce terme notoirement difficile à rendre, que Todorov traduit par singularisation, et Lévi-Strauss de technique de dépaysement. Donc, Ginsburg rappelle que la visée de cette démarche qu'il baptise « estrangement » a toujours été critique. Il souligne en particulier les effets cognitifs et les potentialités disruptives du procédé qui, induisant un renouvellement du regard, offre une attitude particulière. Et donc l'analyse et la définition du concept conduit Ginsburg à réclamer une approche qui présente les choses donc dans leur dépaysement ou leur straniamento et oublier les représentations fallacieuses, les postulats qu'on croyait évidents, les modes d'identification rebattus et usés par les habitudes perceptives nous obligent à voir la personne ou l'objet comme s'ils étaient vus pour la première fois et d'un point de vue inédit, donc pour empêcher que fonctionne à son égard le processus réflexe de reconnaissance. Donc pour lui, c'est un préalable à la recherche qui passe par le fait de construire des comparables pour mieux rendre l'étrangeté du familier. Donc je cite, « L'estrangement me semble susceptible de constituer une antidote efficace à un risque qui nous guette tous, celui de tenir la réalité, nous compris, pour sûr. » Et dans son essai, donc il souligne les enjeux épistémologiques de cette démarche intellectuelle, qui pour lui est dotée d'une portée générale, et il propose véritablement un protocole de lecture de la réalité. Donc, le procédé produit, selon lui, je cite, une tension cognitive qui révèle peu à peu les traits imprévisiblement étranges d'un objet familier, ou peut-être pas si familier que cela, et donc dépayser la langue maternelle, donc regarder l'expression comme si elle était dénuée de sens, ou comme si elle était aussi mystérieuse qu'une énigme, c'est justement la soustraire au domaine de la perception automatique, et donc la voir comme un phénomène opaque, éventuellement la révéler pour l'artifice qu'elle est. Et donc, ma thèse, c'est que cette entreprise, elle entretient une relation particulière avec les phénomènes de déplacement et les contextes postcoloniaux en particulier. Donc, en dépaysant les associations véhiculées par l'expression commune, les écrivains tentent justement de négocier les différences forces culturelles et politiques qui interagissent, et les œuvres participent de à cet égard, donc d'une entreprise plus large pour réimaginer les sujets et les affiliations linguistiques en invoquant des espaces par-delà les catégories fixes et l'équation idéologique entre langage, territoire et identité nationale. Alors, ma première série d'exemples va être relativement simple, puisque c'est une série d'exemples où le dépaysement va passer par le jeu avec la structure du conte de fées qui oppose marraine bénéfique et méchante marâtre. Et donc, l'image négative, on le sait, hein, de la cruelle marâtre qui serait dotée d'une malice sans bornes est assez prévalente, et donc il est postulé que, jalouse, égoïste, non naturelle, elle déteste et elle maltraite les enfants. Et donc c'est cette première image-là en fait qui offre évidemment un terrain assez fécond de réinvestissement et qui est donc par exemple à l'honneur dans ces titres que vous avez derrière vous. Donc John Skinner, dans un ouvrage qui est relativement bien connu, emploie justement l'expression pour décrire la relation d'amour-haine que les peuples colonisés entretiennent envers la langue maternelle du colonisateur. Et comme dans les contes de fées traditionnels, la marâtre, reine méchante bien que fascinante, rejette les enfants du premier lit, mais est finalement dominée par eux, comme c'est le cas, selon Skena, dans la nouvelle fiction anglophone, c'est-à-dire celle produite par des écrivains en anglais qui ne sont pas techniquement parlant des locuteurs natifs et dont la relation à l'anglais est au mieux ambivalente. Hein, et donc la métaphore de la filiation est de cette manière-là réinvestie par l'imaginaire merveilleux, exprimant les tensions qui existent dans le cercle des faits linguistiques, donc entre les marraines et les marâtres linguistiques. Alors, cette image-là, hein, premier exemple, donc chez Asia Djebar, qui affirme explicitement ne s'être jamais pleinement sentie à l'aise et chez elle, en fait, en français, donc qui est la langue irréductiblement de l'autre, je cite, donc « Je cohabite avec la langue française, le français mes langues marâtres. Quelle est ma langue mère, disparue qui m'a abandonnée sur le trottoir et s'est enfuie, langue mère idéalisée ou mal aimée, livrée aux héros de foire et aux seuls geôliers, sous le poids des tabous que je porte en moi comme héritage, je me retrouve désertée des champs de l'amour arabe, est-ce d'avoir été expulsée de ce discours amoureux qui me fait trouver aride le français que j'emploie ?» Alors, on sait, hein, il y a toute une série d'études linguistiques qui montrent que l'apprentissage d'une deuxième langue, en particulier après l'enfance, conduit à des situations de cohabitation où les deux langues peuvent différer en termes en particulier d'effets et d'investissements émotionnels, hein, donc opposant à une première langue qui est justement celle aux résonances affectives les plus intimes, les plus profondes, donc la langue du cœur, la langue de l'enfance, du corps, etc., et une deuxième langue qui est davantage celle de la distance ou du détachement, hein, en tout cas d'un moindre point émotionnel sur l'individu. Et donc, cette distance entre première et deuxième langue peut expliquer effectivement le choix d'écrire dans la langue marâtre pour échapper à l'emprise affective de la langue maternelle et justement s'en libérer. Hein, donc, c'est par exemple ce qu'affirme donc un écrivain américain d'origine croate, donc Josip Novaković, donc je traduis, hein, c'est l'anglais. Dans mon cas, les mots anglais n'étaient pas lestés du bagage politique et émotionnel d'une éducation répressive. Par conséquent, je pouvais dire ce que je voulais, sans provoquer les démons de l'enfance auxquels m'enchaînaient toujours les mots croates qui viendraient me hanter et me faire reculer. Et donc Novaković, il embrasse explicitement, lui aussi, hein, cet imaginaire féerique pour rendre compte de sa relation à l'anglais et des liens de sa langue première, donc les difficultés en fait pour plaire à la fois à sa mère et à sa marâtre, et en plus, lui, il va compliquer l'imaginaire filial par une métaphore botanique, hein, celle que vous avez à la fin de la deuxième citation, donc je traduis juste cette fin. L'anglais greffé sur ma conscience plutôt qu'enraciné en elle me donne de bons fruits. Donc cette expression, en fait, langue marâtre, est devenue elle-même proverbiale, hein, relativement courante. Et troisième exemple, donc Eddie Bourawi, écrivain canadien francophone d'origine tunisienne, lui aussi l'a réinvesti donc dans sa lettre à la langue française de 1994, où donc il s'adresse, hein, depuis le Québec directement à sa chère marâtre, et il l'enjoint à se réveiller comme si, en l'occurrence, la langue française était à la fois la belle au bois dormant, aussi bien que la méchante reine du conte de fées. Alors, se sentant donc rejeté, comme il le dit, par la définition officielle et restrictive du français comme langue nationale, il va glorifier la trahison mise en œuvre donc par les fils illégitimes, hein, donc ceux qu'il appelle ses frères siamois, africains, maghrébins, caribéens, ontariens, vietnamiens. Et outre la métaphore botanique de la greffe et l'image de la marâtre, qu'on a toutes les deux dans cette citation-là, Edaoui en plus propose une variation sur la devise évidemment de la République française, offrant en fait une nouvelle modulation à l'expression commune de langue maternelle, hein, donc c'est ce que vous avez tout à la fin. Fidèle à la devise républicaine, Bouraoui rêve un futur fondé sur une nouvelle définition de la langue française qui embrasserait donc toutes les expressions francophones et qui transformerait la langue marâtre en langue fraternelle, avec ou sans le consentement de la mère originelle. Hein, donc, pour Bouraoui, ce viol linguistique, quand même, implicite, est de fait l'unique moyen, ou serait l'unique moyen, de redonner vie à une langue qui serait moribonde, stérile, sclérosée parce que nationale. Ce qu'il défend aussi, hein, dans un de ses derniers ouvrages, donc Transpoétique, éloge du nomadisme, où il affirme que face à un présent marqué par l'éclatement des frontières et le bouleversement de l'histoire causé par les mouvements idéologiques et migratoires, il est urgent de traduire ces mutations en optant pour la langue d'une marâtre qui ne l'aimera jamais comme une mère, donc cette langue Voltaire racinante, à laquelle il faut faire subir les acrobaties les plus inouïes de haute voltige syntactique. Donc comme vous voyez, en fait, cette première série d'exemples est encore relativement familière. C'est plus le cas de la deuxième série que je voudrais vous proposer et qui va plus loin en fait dans ce processus de défamiliarisation ou de dépaysement, aussi d'un point de vue formel. Et donc ça conduit de fait à produire des textes qui restent partiellement opaques, hein, tout en perturbant effectivement l'expression commune et ses implications. Donc premier exemple, Santiago Amigorena va générer lui le dépaysement par une pseudo-enquête étymologique, hein, donc c'est dans un roman. Retour aux racines, aussi bien linguistiques que physiologiques, donc je cite, ce n'est pas par hasard que ça s'appelle aussi des lèvres. Le professeur Fernand Q. Choulier, dans son célèbre et pourtant inédit mémoire sur l'émission primitive des sons chez l'Homo Heidelbergensis de 1879, soutient que les premières paroles ont été prononcées par l'entrejambe d'une femme. L'Homo erectus, n'ayant utilisé sa bouche jusqu'à une époque tardive que pour manger, le premier Homo sapiens neanderthalensis, aurait frappé de stupeur ses parents en hurlant des insultes de l'intérieur du ventre avant sa naissance, d'où la croyance, demeurée si vive encore de nos jours, que la langue est avant tout maternelle. Donc on voit bien, hein, le texte propose un mythe étiologique ironique, fondé sur des pseudo-références scientifiques, donc recréant une our-langue éminemment déterminée en termes genrés, et son étymologie, donc manifestement fantaisiste, littéralise en l'occurrence la situation corporelle, donc c'est en gros plan, hein, le sexe qui parle et d'où tout émane, donc dans une variation textuelle évidemment autour de la fameuse origine du monde de Courbet. Deuxième exemple, alors c'est un poème sur lequel je vais m'arrêter un peu plus longtemps, donc d'une jeune poétesse sino-canadienne, donc qui a été publiée en 1998, et où l'ensemble du recueil, en fait, est une tentative, hein, de voir quelle position nécessairement compliquée occupe cette poétesse donc au sein des systèmes sociaux et historiques qui donnent forme à la réalité canadienne culturelle contemporaine. Et donc l'expression « langue maternelle » est le plus visiblement dépaysée donc, dans ce premier poème, donc sans titre, hein, de la section qui s'appelle elle-même « Monkey Puzzle », donc puzzle de singe, comme l'ensemble du recueil, à travers une métaphore océanique et le dispositif visuel. Donc comme vous le voyez, le texte serpente, hein, autour de deux courtes strophes qui sont en italique et qui indiquent le désir de la locutrice d'avoir recours à sa langue maternelle cantonaise. Donc la première strophe, hein, tout en haut, s'ouvre avec, je cite, « écrit autour de l'absence, dit-elle, et écrit littéralement autour, donc, comme vous le voyez, de pâles caractères chinois qui s'inscrivent verticalement au centre de la page, précisant que, je cite, « c'est là le son de ma langue chinoise chuchotant, excusez mon chinois, Neitu Nama ». Donc la colonne de texte traverse ensuite de gauche à droite de la page avec un passage qui décrit comment la langue, je cite, « tombe lourdement sur ma langue bégayante, comme ces tons et pictogrammes se trouvent aplatis. » Donc les deux sections, en l'occurrence, expriment la difficulté à maintenir une aisance et fluidité en chinois sans que l'anglais, avec son étymologie de la civilisation, ne colonise complètement le bilinguisme de la locutrice. L'anglais est montré comme un instrument de domination avec, je cite, « ces noms arrogants et encore des noms ponctués par des descripteurs serviles et la grammaire, le filet invisible dans l'air, maintenant tes mots en place, la grammaire comme la richesse appartient aux mains de ceux qui la produisent. » La logique hiérarchique de la langue exige que certains mots soient perçus comme plus centraux au sens que d'autres. En même temps, ce système de valeurs est miné, hein, dans ce poème-là, aussi par une compréhension des moyens par lesquels le sens est également produit par ce qui n'est pas dit. Et donc la présence des caractères chinois sous le texte anglais, hein, suggère que c'est une absence absolument consciente, donc une absence qui structure les transactions de la locutrice en anglais. Donc le texte de Wong est très clairement, hein, un poème d'intervention, puisqu'elle va juxtaposer l'anglais et le cantonais, perturbant effectivement l'autorité de la langue anglaise, une autorité qui, je cite, « piétine les souvenirs naissants en poussiéreux stéréotypes et capitales régentées ». Et donc la domination assumée de l'anglais sur les autres langues est représentée, on le voit bien, hein, visuellement et linguistiquement, puisque alors que les mots anglais se déplacent en diagonale à travers la page, les pâles caractères chinois sont presque littéralement, je cite, « aplatis par le rouleau compresseur de la langue anglaise ». Et pourtant, les idéogrammes, bien que recouverts par l'anglais et évidemment indéchiffrables à quiconque ne lit pas le cantonais, n'en occupent pas moins le centre et l'arrière-plan du poème. Donc la locutrice, uniquement identifiée comme elle, she, à la première ligne, elle articule justement cette anxiété causée par le fait de vivre à demi submergé, donc c'est ce qui est entouré, dans le foyer salé de sa langue maternelle. Hein, et donc c'est cette image-là qui m'intéresse. Donc la métaphore océanique positionne non seulement la langue comme entité qui donne vie, mais elle renvoie aussi à une conception de la langue comme espace potentiellement universel. À l'instar des eaux internationales, elle flotte, hein, libre, sauvage, entre les frontières et les pays. Pourtant, le fait d'être à demi submergé dans le paysage nautique évoque aussi l'image plus inquiétante de la noyade. Donc la locutrice doit constamment arbitrer en fait entre sa langue maternelle chinoise et sa langue paternelle anglaise, donc y naviguer pour ne pas sombrer, bref, se maintenir à flot entre les langues. Et donc ce ventre utérin originel, nourrissant et un peu dangereux quand même, est montré d'ailleurs concrètement. Hein, les idéogrammes chinois sont en train de s'effacer comme s'ils disparaissaient dans l'océan, mais on peut aussi les voir comme émergents de ces eaux troublées. Tout comme dans le texte, l'anglais en effet menace de submerger toutes les autres voix, et pourtant le cantonais reste audible, hein, puisqu'il est concrètement transcrit pour nous, donc Neitu Gnawa, d'autant plus que le son ma, en l'occurrence, signifie aussi mère en cantonais, donc mère comme maman, hein, même si c'est pas l'idéogramme qui apparaît ici, et que la phrase chinoise se traduit littéralement par « est-ce que tu as faim ?», donc une question qu'une mère poserait à son enfant. Donc, alors que les idéogrammes chinois à demi effacés indiquent malgré tout une absence consciente, hein, au sein du poème, les mots cantonais chuchotés hantent également de leur présence automatique ce qu'on est en train de lire et de voir. Donc, littéralement relégués aux marges de la page, les mots chinois sont délibérément déplacés du texte anglais, donc occupant un espace étrange mais autonome. Et donc la forme du poème même ressemble vaguement à un idéogramme chinois, signalant que bien que l'anglais est dominant dans le texte, la langue maternelle de la locutrice chuchote avec des échos et des résonances ténues mais persistants. La locutrice de plus exprime sa colère et son malaise face aux tendances de la langue anglaise à tout nettoyer et aseptiser, et incite à une résistance collective s'opposant justement à ses stratégies hégémoniques. Hein, donc c'est tout le tout début, encore une fois, écrit autour de l'absence, dit-elle, montre son existence. Donc, ce que suggère la poétesse ici, Rita Wong, c'est que la logique binaire du langage, hein, donc qui oppose blanc et non-blanc, masculin, féminin, occidental, oriental, etc., peut être effectivement troublée, et que non seulement elle donne l'impératif de d'écrire autour de l'absence, mais aussi, en fait, de la corriger, hein, par cette présence-là. Alors, j'en arrive à ma dernière série d'exemples, qui dépaysent donc cette naturalité supposée de l'expression, et en particulier toutes les associations de relations contraignantes, hein, qui sont inhérentes à cette question de langue maternelle. Donc, premier exemple, donc d'une auteure de langue allemande mais japonaise, ce qui fait d'ailleurs que la publication de ces textes y a écrit « traduit de l'allemand » entre parenthèses « Japon », hein. Donc, Yoko Tawada, elle va dépayser les habitudes, les automatismes de la langue allemande en prenant littéralement des mots ou des concepts, en particulier la question des genres grammaticaux. Et donc, cette défamiliarisation, permise par la présence, en fait, de la langue de l'autre, mais qui n'est jamais pleinement expliquée par elle, questionne en particulier l'identité supposée d'une langue et le principe de frontières claires entre les langues. Hein, donc, c'est en particulier le cas, donc, de ce texte en prose, de la langue maternelle à la langue mère de 1976, où elle va problématiser les liens naturalisés entre sujet et langue et justement se détourner de modes organiques d'appartenance. Donc ce titre, hein, apparaît effectivement comme une affirmation programmatique sur l'affiliation, et le texte va remplacer un principe de relation de sang naturalisé par un modèle inorganique d'appartenance. Donc je lis « Dans la langue maternelle, les mots sont agrafés aux gens, si bien qu'on éprouve que rarement une joie ludique avec la langue. Là, les pensées s'attachent si fermement aux mots que ni les unes ni les autres ne peuvent voler librement. Dans une langue étrangère, au contraire, on dispose de quelque chose comme d'un otagraphe. Il détache tout ce qui s'est inextricablement agrafé et accroché l'un à l'autre. Donc cette haute agrafe, alors en plus avec une belle construction en allemand, hein, donc Heft, Klama, Entferna, et ce qu'elle appelle son merveilleux nom, ça incarne pour elle le modèle justement désiré, donc ce désir d'une autre langue, et cette haute agrafe, en l'occurrence, il détache ce que le chiasme du titre tient encore uni, hein, c'est-à-dire la parenté figurée à travers à la fois la langue maternelle et la langue mère. Donc cet instrument, l'haute agrafe, qui est un instrument proprement illettré, hein, il est entièrement détaché de l'acte d'écrire même, et par opposition aux autres objets qu'elle décrit qui se trouvent sur son bureau, l'autagraphe n'est pas non plus imaginé comme masculin ou féminin, comme dans un sens humain, hein. Bien plutôt, le texte nous dit qu'il ressemble à la tête d'un serpent avec des dents, et donc ce qui fait que l'alignement entre le genre grammatical d'un objet et son sexe dans l'imaginaire de la narratrice est suspendu, et donc l'autagraphe, il rompt complètement la chaîne de la reproduction humaine. Donc le texte pose, hein, ainsi cette idée que le détachement est un processus désirable de qualité d'être, et donc le dépaysement, il est permis justement par le contexte multilingue, non parce qu'une langue spécifique est préférée aux autres, mais parce que le multilinguisme peut défamiliariser les structures mêmes de la langue dans laquelle nous existons. Alors, pour Tavada, je cite, « Lorsqu'on a une nouvelle langue mère, on peut connaître une deuxième enfance, justement en raison du plaisir joyeux et ludique expérimenté. » Emine Zevki Östama, donc qui était né en Turquie et qui écrit en allemand, au contraire, écrit dans son recueil en prose de 1990, dans une langue étrangère, les mots n'ont pas d'enfance. Donc, ce livre-là, qui est dédié à sa mère, sur lequel je vais m'arrêter un moment, c'est en particulier les deux premières parties qui m'intéressent de ce recueil, donc qui s'appelle Mutterzunge et Großvaterzunge, donc langue maternelle et langue grand-paternelle. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas germanistes, c'est en l'occurrence des néologismes qui sonnent très étranges, hein, en allemand, parce que Mutterzunge est la traduction littérale du turc anadil ou du français langue maternelle, hein, d'ailleurs. Mais c'est pas du tout courant en allemand qui emploie le terme Muttersprache, donc langage maternel. Et la langue elle-même, donc comme organe, hein, comme membre de l'anatomie humaine, occupe assez largement, hein, une place prééminente dans son sens littéral. Donc la création linguistique qu'elle propose, elle est justifiée d'ailleurs dès l'ouverture du texte. Alors ça sonne très bizarrement en français, voilà. Donc dans ma langue, langue se dit langue, oui, mais in meiner Sprache heißt Zunge Sprache, donc il y a bien les deux termes en allemand. La langue n'a pas d'os, où qu'on la torde, elle se tord, j'étais assise avec ma langue retournée dans cette ville, Berlin, etc. Et donc le substantif Zunge, langue, au sens d'organe, est ensuite repris et connecté au substantif mota, mère, qui est répété au moins 4 fois, donc c'est immédiatement après, hein. Si seulement je savais à quel moment j'ai perdu ma langue maternelle, ma mère et moi nous parlions dans notre langue maternelle, ma mère me dit, etc., etc. Donc les premières lignes, en fait, du livre donnent le ton de ce qui suit et elle va constamment enrichir, hein, la langue allemande de cette inflation de néologismes, donc, Mutterzunge, Muttersätze, Großvaterzunge, etc. Et cette narratrice, hein, qui va justement essayer de reconquérir, si tant est que ce soit possible, cette langue maternelle, en apprenant d'autres langues, donc l'allemand bien sûr, et l'arabe, hein, qui est la langue de son grand-père. Et donc ça donne en fait un recueil qui est assez chaotique, avec d'abrupts changements de ton et de perspective. Donc on va avoir des juxtapositions de scènes dont on voit pas nécessairement très bien le rapport, hein, qui font pas sens dès la première lecture, parce que ça va combiner des traditions orales et écrites, la culture occidentale et orientale, donc vous allez avoir un texte qui est entrecoupé de termes turcs, de termes arabes, d'expressions idiomatiques, de proverbes, d'éléments de folklore, de chansons, de fragments de textes musulmans religieux, et tout y sont traduits littéralement en allemand. Hein. Et donc ce qui fait que cet hétérolinguisme qui émerge de ce mélange pose problème à la fois au locuteur natif en allemand et au locuteur natif en turc. Donc ce qui fait qu'on va brouiller justement cet étranger et familier commun dans une écriture qui met au défi à la fois son lecteur allemand et son lecteur non allemand, hein, de repenser ses conceptions linguistiques et culturelles, en particulier les attentes parfois univoques et pleines de préjugés que nous avons les uns des autres. Alors, mon dernier exemple, qui est, je pense, un des plus complexes, hein, et je vais vraiment pas l'épuiser aujourd'hui, donc se trouve chez une auteure que j'ai juste trouvée jusqu'à présent, parce qu'encore une fois, c'est une enquête en cours, chez une auteure canadienne, donc d'origine afro-caribéenne, et en particulier donc dans un de ses recueils de poésie, hein, donc Elle essaye sa langue, son silence se rompt en douceur, si on doit traduire le titre, de 1989, où elle s'empare en fait d'un assez dense réseau d'enjeux qui ont trait à l'esclavage, à l'eugénisme, au colonialisme et au silence imposé, hein, donc je traduis. En tant que poétesse déplacée, triplement déplacée par la race, le genre et la langue, et maintenant quadruplement par le lieu, puisqu'elle se trouve au Canada, trouver ma place a signifié que j'ai dû me confronter avec l'histoire, le temps, la mémoire, et avec la langue et sa perte. Ça conduit en particulier dans un poème, dont vous avez ici un extrait, donc discours sur la logique du langage, qui combine prose et vers, à un jeu donc particulièrement obsessionnel qui va tordre et manipuler l'expression langue maternelle, hein, donc mother tongue, et ses diverses couches de sens et d'affect. Donc vous avez le refrain, hein, qui apparaît en tant que tel, donc comme une mélopée scandée. Elle parle d'ailleurs de riff principal, donc clairement, hein, c'est musical et rythmique, et qui démontre l'élasticité de l'expression commune. Et donc, ce qui fait que le texte, il progresse par répétition, hein, avec donc toute une série, vous voyez, de variations qui tournent autour du calembour central, donc anguish, donc angoisse, langue plus angoisse, qui se nourrit aussi de toute une série de choses qui se trouvent environnantes. Et donc, vous voyez, ce my mommy tongue, my mommy tongue, my momsy tongue, my mother tongue, my ma tongue, etc., etc., plus évidemment le father tongue qui arrive au milieu. Donc, Philippe, elle va effectivement donc tordre, hein, ces mots anglais, les réarranger dans une espèce de configuration un peu bégayante, et ce qui fait que ce texte poétique, assez un peu errant, un peu confus, si vous voulez, il, à aucun moment ne semble se mouvoir au sein des structures imposées et contraintes par la grammaire anglaise. Hein. Et ce qui exprime précisément donc ce sentiment d'avoir été privé du langage et de la culture qui aurait dû être les siens de droit. Hein. Cette condition de l'exil, c'est la traduction de la citation, aux multiples facettes et dimensions, et l'héritage du colonialisme et de l'impérialisme qui ont exilé les premiers Africains de leur ethnicité et de toutes ces expressions, langue, religion, éducation, musique, structure de relations familiales, dans l'au-delà pâle, dans le néant-néant pays, ou bas-bas pays, Netherlands, de la race, de cet exil, il n'y a pas de répit, de recours, de retour. Hein, et donc, évidemment, tout ce jeu qui va se mettre en place entre un anglais créole et un anglais standard, donc ce Queenglish et Kinglish, hein, donc langue maternelle, langue paternelle. Donc, c'est vraiment ça qui est au cœur de ce texte en particulier, cette violence culturelle pratiquée aux dépens des populations non européennes dans les Caraïbes, hein, qu'elle qualifie explicitement de viol linguistique, et dont elle est issue en tant qu'enfant, muette, stupide de langue, hein, et qui donne lieu à ce bégaiement dont je vous ai montré un extrait. Mais par ailleurs, ce bégaiement-là, il est encadré par d'autres textes. Hein, donc le bégaiement, vous l'avez au centre. À gauche, vous avez un texte où vous voyez, donc nous-mêmes, on doit même voir autrement parce qu'il faut tourner le livre, hein, donc vraiment une expérience physique de dépaysement. Vous avez ensuite des édits sur les esclaves, et à droite, c'est des textes scientifiques sur les parties du cerveau responsables de la langue, et en particulier les théories, hein, de deux docteurs, donc Karl Wernicke et Paul Broca, qui sont des théories clairement racistes, hein, qui encodent en fait des conceptions racistes sur la supériorité raciale des blancs. Et donc, ce qui fait que, en fait, on a affaire à un rébus. Hein, il est manifestement divisé en sections, ce poème, mais sans structure linéaire, et donc nous sommes confrontés à la tâche de devoir apprendre à lire ce poème, donc ce qui exige, je vous dis encore une fois, que concrètement on tourne le livre, hein, et que donc nous regardions les choses d'un autre angle, donc principe de dépaysement, et donc le fait de justement vouloir rompre avec aussi des normes structurelles et formelles de la tradition poétique eurocentrique qui va être dépaysée et décentrée, hein, dans ce poème. Et donc, en fait, vous avez affaire à quatre voix qui se font concurrence. Donc, tout à gauche, c'est un discours mythique, hein, sur une mère qui donne naissance à sa fille et qui lui souffle dans la bouche, sans qu'on entende ses paroles, toute la tradition qui, dans une matrilinéaire. Hein. Au centre, donc, c'est la poétesse avec cette voix bégayante dont je vous ai parlé. À droite, donc, en italique, vous avez les édits d'esclaves qui expliquent en particulier que tout esclave qui aurait été trouvé a parlé sa langue maternelle est puni par l'ablation de la langue. Hein, donc cette langue maternelle, encore une fois, coupée et extraite de la bouche des populations colonisées. Et à droite, donc, ces discours physiologico-scientifiques, clairement racistes. Et donc cette opposition entre des discours, les deux de droite, qui sont clairement de la domination, hein, et de la gauche, qui sont plus ces figures marginalisées. Et de surcroît, donc ça c'est les deux, les parties du cerveau, hein. À la fin, donc ça c'est la deuxième page, vous avez de nouveau un deuxième édit d'esclaves et à droite, comme vous voyez, un QCM. Donc des questions à choix multiples, donc pour savoir, par exemple, quel est l'organe qui décrit le mieux à la fois l'oppression et la langue. Donc est-ce que c'est le pénis, est-ce que c'est la langue, etc., etc. Donc vous voyez vraiment un ensemble, hein, qui nous permet à nous de développer aussi un sens de déplacement. Donc cette idée que nous aussi faisons cette expérience d'être dépossédés de quelque chose qui aurait dû être nôtre mais qui ne l'est pas et qui est constamment traversé des voies de la domination, hein, et de l'exploitation et du masculin, etc. Et donc cette tentative de surmonter, hein, cette oppression-là en prenant conscience, alors à la fois de l'écart qui existe entre la langue qu'elle écrit et parle et sa langue maternelle, et deuxièmement en manipulant cette langue pour la dominer elle-même, hein. Ce qu'elle fait, alors c'est un extrait d'un autre poème, donc encore une fois, elle se décrit elle-même comme, je cite, une femme postcoloniale, postmoderne, hybridisée, afro-saxonne, anglicisée, africaine, caribéenne, et donc cette tentative d'exercer un contrôle sur ce qui entend la maîtriser, donc par un mode d'expression qui est justement par-delà ce viol linguistique qu'elle identifie, hein, donc par-delà les violences passées et présentes. Et donc en conjurant cette nouvelle race ou cette race guerrière de mots, hein, qui permet de venger le soi. Et j'en arrive à ma conclusion. Alors, j'ai commencé avec Derrida, je finis avec Derrida. Bon. Donc dans le monolinguisme de l'autre, comme vous le savez sûrement, Derrida postule, hein, donc de nouveau que évidemment une langue ne peut jamais être nôtre, et surtout il écrit spécifiquement, donc je cite, la langue dite maternelle n'est jamais purement naturelle, ni propre, ni habitable. Donc les exemples que je vous ai proposés aujourd'hui, parfois un peu rapidement, et je m'en excuse, j'espère que ça vous aura éventuellement donné envie d'aller les lire, il me semble propose effectivement des stratégies de dépaysement au sujet typiquement, hein, de quelque chose qui est une expression, mais qui n'est évidemment pas qu'une expression, mais qui est néanmoins, hein, cette expression quand même supposément transparente et d'une simplicité trompeuse, qui nous est tous familière. Et donc, les exemples, justement, essayent de négocier les espaces entre les langues, hein, d'engager, justement, des discours qui incitent, par exemple, à réclamer des voix réduites au silence ou à se ressouvenir de tons qui sont devenus inaudibles ou des langues qui ont été coupées, etc., aussi difficiles et tendues que soient ces processus. Et donc, les textes, hein, poétiques en particulier, donc qui sont produits, assez denses, j'espère que j'ai réussi à vous le montrer, elles reposent essentiellement, hein, sur des poétiques du déplacement, aussi au sens d'émotion, bien sûr, dans lesquelles les langues ne sont pas figées et stagnantes, mais justement vont se mouvoir à travers la page, à travers les identités, à travers les productions. Ce qui fait que ces exemples, hein, ces œuvres, elles opèrent effectivement comme site de dépaysement, donc d'un trouble nécessaire, pour perturber cette expression commune et la révéler pour ce qu'elle est, c'est-à-dire aussi un véhicule de pouvoir et de contrôle, hein, et précisément ne plus la considérer comme sûre et évidente, puisque être ou appartenir où que ce soit est problématique. Merci beaucoup.